Les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bienvenue à ce numéro et dernier de l'année 2022. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur la situation de migrants sur l'île Chypre Sud, donc la zone grecque. À Chypre, les demandeurs d'asile sont dirigés dans le camp de Pournara pour enregistrer leur récit. Ces camps prévus pour 800 personnes en accueillent plus de 2000. L'hygiène laisse à désirer. La situation devient angoissante. D'un côté, les migrants sont de plus en plus nombreux, 2000 arrivées par mois, 150 personnes reçues par jour. De l'autre côté, le gouvernement incite les migrants à repartir pour ceux qui ne bénéficient pas du tout du statut de réfugié. Donc pour eux, pas de secours alimentaire, pas d'hébergement, pas de couverture sociale, pas de permis de travail. L'errance migratoire devient massive, voire dangereuse. D'où le thème de l'émission ce soir, demande d'asile à Pournara, deux points, un véritable enfer. Pour en parler, nous aurons deux invités, l'un est avec moi et l'autre, nous serons avec Christovi en direct de Chypre avant la fin de l'émission. Je suis avec le père Philippe Dekergorlé, aumônier d'hôpital qui vient récemment d'une mission à Chypre. Bonsoir père Philippe, merci d'accepter de répondre à notre invitation.
Bonsoir.
Quel a été l'objet de votre mission sur l'île Chypre?
Depuis 2 ans, je prépare avec mon évêque un poste d'aumônier pour les migrants à l'international. Et dans ce cadre, j'ai été en Grèce, en Turquie et tout récemment à l'île de Chypre.
Et selon vous, comment se présente la situation de migrants là-bas, que vous avez vu sur place vous-même?
Alors Chypre est une île de 9 500 km², pas très loin des côtes du Liban et de la Turquie. Et elle est donc une tête de pont de l'Union européenne par rapport aux migrations, plus que l'Italie. C'est pourquoi actuellement, le nombre de migrants par tête d'habitants de Chypre est supérieur à tout ce qu'on peut trouver dans l'Union européenne. Et ce n'est pas sans poser de problème, parce qu'ensuite les migrants auront de la peine à partir dans d'autres pays d'Europe.
Et comment vivent-ils sur place, dans le camp?
Alors beaucoup sont encouragés par la Turquie à arriver dans le nord de Chypre, qui est occupé par la Turquie depuis presque 40 ans, et parce qu'il y a des universités dans le nord. Et la Turquie fait de la publicité pour ses universités payantes auprès de Noirs africains. Donc un certain nombre arrivent, mais en fait ces universités sont des universités fantômes et les Africains découvrent qu'ils n'ont pas grand-chose à faire sur place. Donc pour éviter de revenir inutilement dans leur pays, ils passent en zone sud et essayent de trouver une régularisation dans l'Union européenne, puisque la zone sud fait partie de l'Union européenne, tandis que la zone nord fait partie de la Turquie.
Et ces migrants, une fois arrivés sur l'île Chypre Sud, comment est-ce qu'ils sont accueillis quand ils viennent? Parce que je l'ai dit au début de l'émission que le camp de Pournara compte en principe, abrite 800 personnes, mais eux, ils sont 2000 arrivés par mois.
Oui, alors même actuellement, le camp de Pournara, qui il y a quelques mois encore accueillait 2000 personnes pour 800 places, en accueille au jour d'aujourd'hui 3200. Donc il y a une promiscuité tout à fait regrettable, avec des conditions d'hygiène déplorables. Quand ils ont fait leur demande d'asile, au bout de plusieurs semaines dans le camp, ils peuvent sortir du camp, mais se pose le problème du logement, puisqu'il n'y a pas de logement d'urgence. Il faut trouver à droite et à gauche et de manière payante. Et pour payer son loyer, il faut trouver un job. Et c'est très difficile vu le nombre de migrants. Et puis, il faut arriver à manger puisqu'il n'y a pas de distribution de nourriture.
Et ces migrants-là proviennent de quel pays comme ça?
Alors, les plus anciens viennent des Philippines et du Sri Lanka. Les plus récents viennent d'Afrique noire.
Et vous avez rencontré aussi de femmes enceintes?
Oui. Le problème, c'est que les femmes qui arrivent n'ont pas d'hébergement. Elles ne trouvent des hébergements que de manière accidentelle. Et souvent, des hommes leur proposent de loger chez eux. Mais souvent, le paiement est en nature. Et la conséquence, c'est que la femme devient, dans un certain nombre de cas, enceinte. Et ces femmes enceintes sont plusieurs centaines et dans des conditions difficiles. Lorsque l'enfant naît, souvent la femme est sous-alimentée et ne peut pas allaiter convenablement son enfant. Et la Caritas et la Croix-Rouge, qui sont les seuls organes à distribuer de la nourriture, n'ont pas suffisamment de lait maternisé pour aider toutes les femmes qui en auraient besoin.
Et face à cette grande misère, quelle est la réponse du gouvernement?
Le gouvernement est dépassé par le nombre de migrants. Et puis, ils n'ont pas une culture d'accueil, puisque Chypre n'a jamais eu de colonie, contrairement à la Belgique ou à la France. Et donc, le gouvernement se contente d'enregistrer les demandes d'asile, de les traiter de manière formelle, mais il n'y a pas d'aide sociale ou d'accompagnement des personnes.
Donc, il n'y a pas d'assistant social là-bas?
Non. Non. C'est la Croix-Rouge et la Caritas catholique qui aident les gens à faire les papiers minimums.
Et comme ils n'ont pas de couverture sociale, comme ici le cas en France pour les sans-papiers qui ont eu à totaliser 3 mois sur le sol français, ont droit à l'aide médicale d'État, qu'en est-il pour les migrants là-bas à Chypre?
Alors, il y a une espèce de couverture minimale, mais qui est bien moindre que l'aide médicale d'État. Puis les gens doivent se débrouiller par eux-mêmes. D'où le fait que c'est une grande misère et une situation qui deviendra explosive avant peu de mois.
Et la santé est payante, mais comment il paye au fait l'hôpital?
Alors, pour l'hospitalisation d'urgence, c'est possible qu'il soit accueilli. Mais pour les médicaments, pour les soins habituels, là, c'est une autre paire de manches. Et je pense qu'il va y avoir des problèmes sanitaires très bientôt.
Et une fois arrivé au camp de Purnara, comment étiez-vous accueilli? C'est la première fois pour vous de partir, d'effectuer une mission.
Alors, je n'ai pas demandé d'être reçu officiellement dans le camp de Purnara. Il ne serait pas très difficile de s'y introduire clandestinement parce que les barrières ne sont pas très solides. Mais je me suis contenté de discuter avec les migrants qui étaient tout autour du camp, qui allaient et venaient pour discuter un peu de leurs conditions de vie à l'intérieur. Et puis j'en ai rencontré un certain nombre qui étaient en ville, qui étaient sortis du camp officiellement et qui attendaient leur demande d'asile, enfin la réponse de la demande d'asile.
Et pour ceux que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Il y a une certaine désespérance sur l'avenir. C'est-à-dire que d'une part, il faut attendre 2 ans pour une réponse pour la demande d'asile et il n'y a aucun statut social en attendant. D'autre part, quand on bénéficie du statut de réfugié, ce n'est valable que pour Chypre au niveau de la couverture sociale et du travail. On peut circuler librement dans les autres pays de l'Union européenne, mais sans pouvoir travailler et sans bénéficier d'une couverture sociale. Alors le problème, c'est que pour un certain nombre de francophones qui ont de la famille soit en Belgique, soit en France, arriver en France ne serait qu'une visite et c'est tout, mais ils ne pourraient pas s'y installer. Donc il faut refaire toute une procédure, soit en Belgique, soit en France, et c'est comme si le bénéfice d'être réfugié à Chypre ne servait pratiquement pas pour la France, la Belgique ou d'autres pays de l'Union européenne.
Alors pour ceux qui sont déboutés du droit d'asile, par exemple, que font-ils? Ils restent dans le camp où ils sont hébergés comment? Comment est-ce qu'ils vivent au quotidien?
Ils n'existent plus aux yeux du gouvernement. S'ils repartent, ils repartent. Et là, on les aidera à prendre l'avion. S'ils ne repartent pas, ils n'existent pas jusqu'au moment où ils sont arrêtés, expulsés. Mais ils ne peuvent ni travailler, ni bénéficier d'une couverture sociale, ni d'un logement.
Et quelles sont les autres difficultés qu'ils rencontrent? En dehors du logement, en dehors de la nourriture, en dehors du fait de ne pas trouver un travail, quelles sont les autres difficultés?
C'est déjà beaucoup, mais comme ils sont très nombreux, les mafias présentes profitent d'eux, notamment pour la prostitution. On décompte 3 types de mafias. La mafia russe, qui est très active, la mafia turque et la mafia nigériane, qui exploite des femmes dans la rue. L'Église catholique y est très active, propose des chorales, propose des activités spirituelles, et c'est très important, notamment pour que les gens tiennent le coup au niveau moral. Et puis, il y a aussi des églises de réveil qui proposent des réunions de prière le soir. Voilà. La dimension spirituelle, dans un cas de grande détresse sociale, devient ce qui permet de tenir et de garder la tête haute.
Thank you. À Chypre Sud, c'est la langue grecque qui s'y parle. Est-ce qu'il y a-t-il, vous avez vu, un centre d'apprentissage de cette langue pour les migrants?
Non. Non, non, c'est un des problèmes pour trouver du travail, c'est qu'effectivement la population de Chypre parle grec. Elle parle aussi pas mal anglais parce que Chypre a été occupée par les Anglais. Donc les Africains nigérians, par exemple, qui sont anglophones, ont un avantage par rapport aux francophones comme les Camerounais ou les Congolais. Mais de fait, la langue est un obstacle réel. Et ça se retrouve d'ailleurs à l'école. Les enfants doivent apprendre le grec ou le turc dans la partie nord. Et là aussi, ça demande une adaptation. Mais pour les enfants, ils apprennent plus vite que les parents.
Donc les petits enfants que vous avez rencontrés là-bas fréquentent l'école?
Ils doivent fréquenter l'école. Ils ne le feront pas toujours parce que un certain nombre de migrants ne trouvant pas en ville se retrouvent en grande banlieue à 50 ou 60 km de la ville et pas toujours dans des endroits où l'école est facile. Et puis d'autre part, il faut avoir un cahier, des bics, toutes les fournitures scolaires, et un certain nombre de familles n'ont pas l'argent suffisant pour s'offrir les fournitures scolaires, qui ne sont pas fournies non plus par l'école. Et dans ces conditions, les enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire.
Alors, les demandeurs d'asile représentent-ils combien de pourcents à peu près de la population chypriote?
Eh bien, plus de 5%, ce qui est la proportion la plus importante qu'on puisse trouver dans l'Union européenne.
Et quand vous êtes arrivé là-bas, sur place, et avant de quitter Chypre, qu'est-ce que vous êtes dit?
J'avais demandé à la Caritas, disons, de me guider et de me faire découvrir un peu les réalités du terrain, puisque la Caritas, cet organisme catholique, disons, est très actif pour l'aide aux migrants. Donc ce sont eux qui m'ont orienté et qui m'ont permis de rencontrer un certain nombre de migrants et qui m'ont... voilà, j'ai vu aussi le représentant du pape, le chargé d'affaires de l'annonciature, disons, qui est un Indien de 50 ans, qui parle une dizaine de langues et qui est très actif pour faire venir notamment des ordres religieux au service des migrants et de l'île en général. Voilà, et puis j'étais logé chez un artiste turc, donc dans la partie nord, disons, de l'île. Comme ça me permettait aussi de connaître cette partie qui est occupée par les Turcs.
Et vous êtes actuellement en France et vous comptez y retourner là-bas?
Peut-être. J'ai été deux fois en Turquie, enfin trois fois en Turquie, deux fois en Grèce, une fois à Chypre. Je pense que le besoin de prêtres au niveau spirituel est plus important en Turquie parce qu'il y a 5 millions de réfugiés dont une partie sont des Irakiens chrétiens ou des Syriens chrétiens. Chypre, il y a également beaucoup de réfugiés, mais un nombre moins important qu'en Turquie. Mais il y a plus de prêtres, disons, au service de la population.
Merci beaucoup, Père Philippe de Kergerlé, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et tout de suite, nous serons en ligne avec Christevi, migrante d'origine congolaise qui se trouve à Chypre du Sud. Bonsoir, Christevi.
Bonsoir.
Dites-nous, comment êtes-vous arrivée à Chypre Sud?
J'avais été inscrite comme étudiante au Chypre du Nord parce que j'étais harcelée sexuellement et abusée par mon patron. Il me menaçait. Il menaçait donc de me tuer et de massacrer toute ma famille. C'est pourquoi, quand il m'avait fait avorter, le docteur en question, je lui avais expliqué tout ce qui s'est passé dans ma vie et il m'avait dit qu'il va m'aider, comme j'avais un peu économisé mon argent de salaire. Et puis le docteur aussi m'a acheté une petite somme et a donné à ses contacts qui étaient à Chypre du Nord. Et c'est alors que J'ai aussi retrouvé là-bas. En fait.
Et de Chypre du Nord, et pourquoi vous n'y êtes pas resté?
Pour arriver d'abord au Chypre du Nord, j'avais transité par la Turquie. Au Chypre du Nord, là-bas, on ne demande pas d'asile. Donc, c'est géré par les Turcs. Ce n'est qu'ici, au Chypre du Sud, qu'on peut demander l'asile. C'est pourquoi, avec seulement ces contacts, arrivé au Nord, j'avais fait une semaine chez ses contacts et puis il a payé, puis ils m'ont fait traverser ici au sud.
Combien de temps êtes-vous à Chypre du Sud?
Cela fait 3 mois que je suis.
Et avez-vous demandé l'asile?
Oui, j'ai demandé l'asile.
Et vous vivez où? Dans le camp de Pournara?
Je suis déjà sortie de Pornara. Le gouvernement m'a remis les Allen Book. Donc, je n'ai nulle part où aller. Heureusement, là-bas au camp, on s'est fait de la famille. Donc, je me promène de maison à maison pour dormir en attendant que je puisse chercher un boulot. Mais trouver du boulot aussi, c'est tellement difficile. Nous sommes tellement nombreux. Et puis ici, bon, ils sont des racistes, c'est difficile. J'ai même été victime de la violence sexuelle ce lundi après la messe. Après la messe, j'étais allée dans un hôtel pour chercher du boulot.
Oui.
Et les gars en question m'ont dit que pour l'instant, ils n'ont pas besoin des travailleurs. Mais il m'a donné son numéro, il m'a assuré que dans quelques temps, ils auront besoin d'une ménagère. J'ai accepté et je lui ai remis mon numéro. Et puis, on s'est appelé sur place pour confirmer les numéros. Et puis après, quand je suis sortie de l'hôtel, le gars m'a appelé pour me dire que non, chez lui, il a de la famille, il vit avec sa femme et ses enfants. Ils ont besoin d'une ménagère, si ça pourrait m'intéresser. Donc, comme je n'avais pas du boulot, j'ai dit oui. Et puis, il m'a dit d'attendre 20 minutes après pour qu'il aille me faire visiter sa maison pour commencer le boulot. Je l'ai attendu et puis on est allé chez lui. En arrivant, j'ai vu qu'un seul gars au salon. La maison était désordonnée. Le gars en question m'a amené dans sa chambre. Moi, je croyais qu'il me faisait visiter la maison pour pouvoir faire le ménage. Et là, il me posait des questions que combien veux-tu que je te paye? Moi, j'ai dit, bon, c'est à ce que je sache, c'est 5 euros par heure. Il a dit, pas de problème, pas de problème. Nous sommes allés dans la chambre. Subitement, le gars a ouvert sa ceinture pour me dire que non, il a un boulot, il fera de moi une femme riche. Le boulot en question,
La prostitution.
c'est si on fait un coup, oui, la prostitution, si on fait un coup, j'aurai 15 euros. Si le premier coup là me plaît, il va encore ajouter, il va de faire de moi une femme riche, il va me donner à ses contacts des trucs pareils. Moi, j'ai dit, mais non, ce n'est pas le boulot que tu m'as dit. Toi, tu m'as dit que je serais femme de ménage.
Et il parlait quelle langue
J'ai
comme
dit
ça,
que
le
non,
monsieur?
non, non, non. Pardon?
Il parlait en quelle langue?
En anglais. Et raison pour moi, j'entends plus et puis je parle un peu anglais.
Ok.
Je lui ai dit, non, 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 je ne peux pas le faire. Le gars s'est fâché, il m'a poussé, il m'a chassé de la maison. Go, 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 go! Je ne connaissais pas la route, je n'avais pas les data. Donc, j'étais émotionnée comme pas possible. Je fuis mon pays pour la même raison et arrivé ici, c'est donc le même pays qui veut encore me rappeler de mauvaises choses que j'ai fui dans mon pays d'origine. Donc, c'est difficile. J'étais émotionnée. Je ne savais pas la route, donc j'ai demandé de l'aide en cours de route. Il m'a montré le bus stop le plus près et j'ai raison que j'avais la carte de bus d'une amie de la maison. Puis, j'ai pris le bus, je suis rentrée à la maison. Donc,
Et vous n'avez pas porté
ça
plainte?
fait un peu mal. Je n'ai pas porté plainte, je n'ai pas de preuves. Comment je peux aller à la police pour porter plainte? Donc, c'est difficile. Vraiment difficile.
Et nous sommes vraiment désolés. Et quand vous étiez à Pornara, comment s'est passée la situation là-bas pour vous?
Ben pour Nara, d'abord, pour m'enregistrer, j'avais fait une semaine. Je faisais que retourner, tellement il y avait du monde. Ils ne m'enregistraient pas. Une fois enregistré, donc j'avais nulle part où dormir. Tu pars dans ces rooms no place, tu pars dans l'autre room no place. On dormait, c'est moi la belle étoile comme ça. Jusqu'à ce qu'on nous ait enregistrés, nous ont donné des rooms. Donc, une petite room là, on était au nombre de 18. On dormait par terre pour manger, c'était vraiment difficile. On faisait la queue pour trouver à manger. Donc, c'était vraiment difficile.
Et l'hygiène alors?
C'était mal propre, le toilette, donc il y avait de la saleté impossible. Des microbes, les gens se lavaient nus devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de douches. C'était vraiment sale.
Et en tant que demandeuse d'asile, avez-vous droit à des aides de l'État?
Oui, nous avons quelques ONG qui nous enregistrent. Si tu sors dans un délai normal du camp, tu pars, on t'enregistre. Ils nous donnent quelques vêtements, de quoi manger. Donc, comme là, à Dignity Center, c'est 5 fois. On nous remet des cartes food. Vous irez 5 fois, donc une fois par semaine. Dès que vous avez totalisé les 5 fois, c'est fini. Vous débrouillez vous-même. Ils nous font sortir du camp sans nous demander où nous allons aller. Donc, si pour eux les délais arrivent, tu pars. Donc, peu importe où tu pars, là, ils s'en foutent. Il y a aussi la Caritas qui fait pour nous les labor cards, qui fait pour nous des CV pour nous permettre de chercher du boulot en ligne. Et ils nous offrent aussi quelques vêtements et autres.
Donc, la situation est vraiment intenable là-bas. Et quand vous tombez malade, qu'est-ce que vous faites? Vous faites soigner gratuitement ou pas?
Oui, on nous a donné un papier, c'est en grec. Ce papier-là nous permet d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Mais il y a de la queue là-bas pour qu'on te reçoive. Tu peux aller, aujourd'hui, tu fais 24 heures pour qu'on te reçoive. Et si tu es dans un état critique, tu risques de succomber. Et puis, ils ne nous acceptent pas facilement. Il y a toujours des rendez-vous, des rendez-vous et des rendez-vous. C'est vraiment difficile. Dans d'autres hôpitaux, ils vous exigent la carte. Si vous allez dans l'ONG à laquelle ils vous avaient dit que non, même avec le papier, ils vont vous recevoir, à l'hôpital, ils refusent que non, pas avec ces papiers, il faut la carte. Donc, c'est compliqué.
Le jour où vous aurez votre statut de réfugié, vous comptez rester vivre à Chypre ou bien vous voulez rejoindre un autre pays de l'Union européenne?
Pour l'instant, bon, si on me donne le statut des réfugiés et que je trouve un emploi, là, je vais rester déstabilisée.
Et pour
Le
vous.
temps viendra si j'économise et puis si je trouve bon de quitter le Chypre, là, je le ferai sans hésiter.
Mais pour vivre à Chypre, il faudrait aussi connaître la langue grecque, parce que vous êtes dans le sud. Est-ce que vous avez déjà commencé à apprendre le grec?
Pas encore, parce que pour connaître le grec, il faut bien maîtriser l'anglais. Donc, la Caritas nous offre des cours gratuits. Donc, j'ai participé au cours pour mieux connaître l'anglais. Et puis, l'année prochaine, ils vont organiser le cours de grec gratuit aussi. Là, je vais aller poursuivre le cours.
Oh.
Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment, à part le logement, la nourriture?
La nourriture, oui. Le vêtement et puis le chômage. Donc, c'est un peu ça.
Donc, vous n'avez pas de permis de travail?
Non.
Et depuis que vous avez commencé à trouver du travail, vous avez déjà trouvé un hein, qui vous a rémunéré?
Je n'ai pas encore commencé à travailler. Je cherche. C'est pourquoi je vais risquer ce lundi de me faire violer à cause de ça. Je cherche partout. Donc, de 8h à 14h, je me mets à se promener là, dans des marchés, dans des hôtels, pour demander de l'emploi, mais je n'en trouve pas.
Mais pourquoi est-ce que, à partir de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, où vous êtes né, vous avez vécu avant de quitter là-bas, pourquoi vous n'avez pas choisi un autre pays pour vous rendre?
Ben, ça dépendait de mes moyens, donc du moyen du déplacement. Donc, quand j'avais fait une année chez mon patron, j'avais économisé que peu d'argent. Et puis, la personne qui voulait m'aider aussi m'avait dit que non, il va me donner juste une petite somme. Donc, ça n'allait pas pour aller dans d'autres pays. Parce que dans d'autres pays, c'était vraiment coûteux. Donc, je n'avais pas le choix. Et Chypre, c'était facile à y accéder et à recevoir le visa d'études. C'est pourquoi j'avais choisi les Chypre. C'est moi pour quitter, pour être en sécurité. C'est un peu ça.
Et ce qui vous arrive à Chypre, vous l'avez expliqué à votre famille à Kinshasa? Vous en parlez
Mais
de temps en
non.
temps avec elle?
Juste un peu. Je ne parle pas de trop pour ne pas les inquiéter.
Et si, par exemple, un membre de votre famille veut vous rejoindre à Chypre, vous allez l'encourager ou le décourager?
Non, non, non. Si un membre de ma famille voudra venir, c'est pour les études, là, je peux laisser. Les études directes Chypre du Sud. Mais pour venir comme demandeur d'asile, donc je ne peux pas l'encourager parce que c'est vraiment difficile ici. Vivre, donc être chômeur ici, être sans emploi, sans abri, c'est vraiment difficile. Je ne peux pas l'encourager.
Et vous-même, vous passez votre temps tous les jours à chercher du travail, c'est-à-dire racontez-nous votre quotidien. Qu'est-ce que vous faites tous les jours quand vous vous réveillez?
Ben, je me réveille à 6h du matin. Le temps pour moi de me préparer, je prends les bus de 6h30. Je me rends chaque jour à la messe. Je suis catholique. Après la messe finit à 8h. À partir de 8h jusqu'à 14h, je me promène pour chercher du boulot. Et puis, 14h30, je rentre chez moi. Donc, de porte à porte. Donc, je fais ça.
Donc, vous vivez vraiment un véritable enfer à Chypre.
Oui, c'est ça.
Nous tendons vers la fin de cette émission. Avez-vous un dernier mot à propos de l'immigration, par exemple?
Par rapport à l'immigration, ce que moi, je peux dire en ces moments, si y a d'autres pays qui suivent les informations d'ici et qu'ils ont besoin des migrants, qu'ils viennent demander ici, donc, au gouvernement d'ici pour qu'il rapatrie au moins un certain nombre d'immigrants dans d'autres pays. Donc, ce que je peux dire, c'est ça.
Et quel pays vous tente, par exemple? Vous, en particulier?
Bon, il y a beaucoup de pays. Moi, en particulier, l'Allemagne, l'Italie, la France. Donc, peu importe les pays, mais quand même, de nous libérer d'ici.
Merci beaucoup, Christevi, migrante originaire de la République démocratique du Congo qui se trouve présentement à Chypre du Sud. Elle a demandé l'asile. Elle attend impatiemment d'obtenir un statut de réfugié. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions et nous vous souhaitons bonne chance.
Merci beaucoup.
Et à vous, fidèles auditeurs et auditrices, c'était donc la dernière émission de l'année 2022. Nous espérons vous retrouver en 2023 avec d'autres sujets encore beaucoup plus intéressants. Les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista.